Bienheureux sont ceux qui sont persécutés. Si vous demandiez à quelqu'un dans la rue, de quoi Jésus a-t-il enseigné? Même s'il n'est pas croyant, il devinerait probablement que Jésus a enseigné l'amour. Et il aurait raison. Jésus a enseigné à aimer Dieu. Il a enseigné à aimer son prochain. Il a même enseigné à aimer son ennemi. Avec tous ces enseignements sur l'amour, on pourrait se demander, comment quelqu'un pourrait-il détester Jésus? Comment peut-on détester quelqu'un qui est venu sur cette terre par amour? Et pourtant, nous savons que des gens l'ont haï, au point de le crucifier sur une croix. Mais avant la croix, Jésus nous a avertis, nous ses disciples, qu'il viendra des moments où les gens nous haïront. Simplement à cause de ce que nous croyons. Alors, comment devez-vous comprendre cela? Que devez-vous faire? Comment gérez-vous ceux qui vous détestent? Eh bien, c'est ce que je voudrais que nous examinions. Donc si vous avez une Bible, veuillez l'ouvrir avec moi, à Jean 15. Nous avons étudié, ces dernières semaines, ce qu'on appelle « le discours de la chambre haute » dans l'évangile de Jean. Il s'agit d'un ensemble d'enseignements que Jésus a donné à ses disciples autour du dernier repas, la veille de sa crucifixion. En mars dernier, j'ai prêché un sermon sur la première moitié de Jean 15, intitulé « Une relation avec Dieu ». Je vous invite à retourner l'écouter en ligne. Donc, je ne vais pas redonner le même sermon ce matin. Je vais simplement lire les 17 premiers versets sur lesquels j'ai déjà prêché et ajouter quelques brefs commentaires, avant de me concentrer sur la seconde moitié de Jean 15. 15. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. 2. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. 3. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché à la vigne. De même, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Jésus est notre lien avec Dieu le Père. Nul ne vient au Père si ce n'est par lui. Il est la vraie vigne, et nous sommes ses sarments. Lorsque nous nous attachons à Jésus par la foi, nous passons de la mort à la vie. Et cette vie abondante qu'il nous donne produit du fruit spirituel. Et il est fidèle à nous émonder afin que nous portions encore plus de fruits. L'émondage dans le sens du jardinage consiste à enlever de la plante ce qui pourrait empêcher sa croissance. Donc, si vous coupez ces choses, la plante est libre de croître davantage. De la même manière, spirituellement, Dieu vous émonde en retirant de votre vie ce qui pourrait bloquer votre croissance spirituelle, afin que vous puissiez grandir davantage. L'émondage n'est pas toujours agréable, mais cela fait partie du processus de croissance. En tant qu'être humain, en général, nous n'aimons pas le changement. Nous aimons que les choses restent telles qu'elles sont. Mais bien souvent, pour que nous puissions croître, Dieu amène des changements dans nos vies. Dieu peut bouleverser nos vies, afin que nous portions encore plus de fruits pour lui.
5. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et ils sèchent, puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. 8. Mon Père est glorifié en ceci. Que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez mes disciples. 9. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. 11. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous,
et que votre joie soit parfaite.
Alors, comment restons-nous connectés à Jésus la vigne? Jésus dit que c'est simple. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Peut-être que votre traduction dit restez, ou continuez en Christ. De ce mot, nous comprenons l'importance d'avoir une relation avec Dieu. Et une relation avec Dieu portera toujours du fruit. Le fruit ne vient pas de nous-mêmes. Il vient du fait d'être connecté à la vigne. Jésus parle du fruit de l'Esprit Saint. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce sont les fruits manifestés par l'action de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Et comme vous le savez, on ne peut pas faire mûrir le fruit au micro-ondes. Le fruit prend du temps à pousser. Mais plus vous demeurez en Jésus-Christ, plus vous le suivez, plus ces fruits grandiront et seront visibles dans votre vie. Demeurer en Jésus commence au moment du salut, mais ne s'arrête pas là. Le salut n'est que le début du voyage auquel Dieu vous appelle. Jésus est le bon berger. Il nous conduit et nous le suivons.
À foi, nous pouvons réduire la vie abondante que Jésus offre et la résumer simplement à l'obtention d'un ticket pour le ciel. As-tu ton ticket? Il te faut ton ticket. D'accord, comment puis-je avoir mon ticket? En croyant en Jésus? D'accord, je crois, alors donne-moi simplement mon ticket pour le ciel. Oui, en tant que croyant, nous attendons avec impatience l'éternité au ciel avec Christ. Mais ce n'est pas tout ce dont il s'agit. Il s'agit aussi de marcher avec Dieu aujourd'hui, de demeurer en lui aujourd'hui, de lui faire confiance aujourd'hui alors qu'il te guide aujourd'hui. Maintenant, cela étant dit, au verset 6, Jésus nous met en garde de réfléchir à l'éternité. Les branches mortes au verset 6 et au verset 2 semblent représenter les personnes qui ne croient pas en Jésus. La Bible parle de la réalité glorieuse du ciel, mais elle parle aussi de la réalité solennelle de l'enfer, un lieu de châtiment éternel pour ceux qui ont rejeté Christ. Beaucoup de gens aiment l'idée biblique du ciel, mais n'aiment pas l'idée biblique de l'enfer. Mais la Bible qui nous enseigne sur le ciel est la même Bible qui nous enseigne sur l'enfer. Jésus a parlé à de nombreuses reprises de la réalité de l'enfer.
Si vous êtes ici ce matin et que vous ne croyez pas en Jésus, je veux vous avertir que l'enjeu est de taille. Ce n'est pas un jeu. L'enfer est aussi réel que le ciel. Quel genre de branche êtes-vous? Êtes-vous une branche vivante, connectée à Jésus, la véritable vigne? Ou êtes-vous comme la branche morte, attendant le jugement de Dieu? Je prie pour que nous soyons tous ici des branches vivantes, demeurant en Jésus-Christ.
12. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 14. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. 15. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître.
16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Ainsi, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.
Lorsque les disciples ont entendu cela, ils ne comprenaient pas encore toute la signification de ce que Jésus disait. Ils le comprendraient bientôt lorsque Jésus irait à la croix et donnerait sa vie pour eux et pour nous. Jésus nous a donné cet exemple d'amour sacrificiel et il dit à ses disciples, « Maintenant, allez et aimez-vous les uns les autres de cette manière, avec joie. » Et il dit, « Vous êtes mes amis. Réfléchissez à cela. Nous sommes amis avec le Créateur de l'univers. Dieu non seulement vous aime, mais il prend plaisir à vous. Il apprécie les moments passés avec vous.
Il vous appelle son ami. Savez-vous cela à propos de notre Dieu?
Voilà donc le résumé rapide des versets 1 à 17. Comme je l'ai dit, vous pouvez retourner écouter le sermon que j'ai prêché en mars sur ces versets. Maintenant, Jésus va passer du sujet de l'amour à celui de la haine. 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jésus commence en disant « si », mais ce n'est pas un « si » qui est peu probable. Non, ici, Jésus dit « si » et cela a le sens que cela arrivera probablement.
Donc Jésus ne dit pas à ses disciples qu'il y a une toute petite chance que le monde les haïsse. Il leur dit qu'il est probable que le monde les haïsse. Pourquoi? Parce que le monde a d'abord haï Jésus. En d'autres termes, Jésus dit « Ne soyez pas surpris lorsque ces choses vous arriveront, car elles me sont d'abord arrivées à moi. » Jésus est venu prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, le pardon des péchés. Il est venu et a guéri les aveugles.
Il a ressuscité les morts. Il a marché sur l'eau. Et vous pensez, comment les gens pouvaient-ils le haïr pour cela? Et pourtant, ils l'ont fait. Ils l'ont haï au point de l'envoyer être torturé et mourir sur la croix. Jésus dit, ne soyez pas surpris si le monde vous hait de la même manière. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez aller chercher la haine. Certains chrétiens essaient de provoquer les gens. Peut-être lors de conversations, ou peut-être en ligne. Ils veulent simplement argumenter. Mais la Bible nous dit de dire la vérité avec amour, et de rechercher la paix avec tous. Vous n'avez pas à essayer de faire en sorte que les gens vous haïssent.
Quand j'étais au séminaire, je travaillais dans un café. Et tout le monde au café savait que j'étais croyant.
Mes collègues et moi avons eu de très bonnes conversations sur la foi, et certains d'entre eux sont devenus mes amis. Notre responsable allait avoir un bébé, donc elle allait s'absenter pendant 6 semaines. Oui, c'est le temps de congé de maternité qu'on reçoit aux États-Unis. 6 semaines. Mais pendant son absence, un responsable d'un autre magasin allait la remplacer. Je n'avais jamais rencontré ce responsable auparavant, mais j'avais entendu dire qu'il s'identifiait comme homosexuel. Et apparemment, il avait entendu que j'étais chrétien avant que nous nous rencontrions. Je me souviens de notre première équipe de travail ensemble. Cela semblait très tendu. Pas de ma part, mais de la sienne. Il ne me regardait pas vraiment dans les yeux et il ne disait pas grand-chose quand je lui posais des questions. Mais avec le temps, les barrières ont commencé à tomber. Nous avons commencé à discuter davantage et à mieux nous connaître.
Et j'ai découvert qu'il n'avait pas eu de bonnes expériences avec des chrétiens par le passé. Je ne sais pas de ce qu'il lui avait dit, mais cela le rendait anxieux à l'idée de me parler au début, car il pensait que je serais comme eux. Il pensait que j'allais essayer de discuter avec lui et de le provoquer. Maintenant, je savais ce qu'il croyait à propos du sexe, et il savait ce que je croyais à ce sujet. C'était clair. Mais cela signifiait-il que nous devions nous disputer à ce sujet? Si j'avais voulu le provoquer, j'aurais pu le faire. Mais à quoi cela aurait-il servi?
Au lieu de cela, nous avons parlé d'autre chose, et à un certain moment, j'ai pu parler de ma foi en Christ. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais j'ai confiance qu'une graine a été semée. Mon point est le suivant. Jésus a dit, « Si le monde vous hait, n'essayez pas de faire en sorte que le monde vous haïsse. Ne soyez pas de ceux qui provoquent toujours les autres, que ce soit en ligne ou lors de conversations. Au contraire, comme il est dit dans Colossiens chapitre 4, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Verset 19.
19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait.
Quand Jésus dit « le monde », il ne parle pas de la planète Terre.
Non. Lorsque nous lisons le mot « monde » dans le Nouveau Testament, il s'agit d'une idéologie opposée à Dieu.
c'est l'amour pour un système spirituel qui s'oppose à Dieu et aux choses de Dieu. C'est un système spirituel dirigé par le malin, Satan. Ce sont des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui rejettent Dieu, qui sont contre Dieu, et nous pouvons trouver son influence et ses effets partout.
Romains 12, 1 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. »
1 Jean 2, 15 dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. »
Ainsi, lorsque la Bible parle du monde, elle décrit ceux qui s'opposent activement à Dieu.
Jésus dit « Si vous étiez du monde, c'est-à-dire, si vous rejoigniez le monde dans le péché et vous opposiez aux choses de Dieu, alors le monde vous aimerait. »
Mais il dit aux disciples « Puisque vous n'êtes pas du monde, parce que je vous ai choisi et tiré du monde, alors ils vous haïssent. »
Peut-être avez-vous déjà entendu l'expression selon laquelle nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas être du monde. Cela vient de versets comme celui-ci.
Si vous êtes en Christ Jésus, il vous a sauvé du domaine des ténèbres,
il vous a choisi et vous a tiré de la domination du péché, mais vous vivez encore ici. Vous vivez encore dans un monde pécheur et brisé. Vous n'êtes pas encore au ciel.
Ah si, vous êtes dans le monde, mais vous ne devez pas être du monde.
Il devrait y avoir une différence entre vous et le monde pécheur qui vous entoure.
Alors, où se trouve cette limite? Où est la frontière entre être dans le monde, mais ne pas être du monde?
Devons-nous nous isoler en tant qu'Église? Devons-nous acheter un terrain dans un endroit isolé, afin de construire notre communauté loin de la corruption de ce monde?
Est-ce la solution?
Eh bien, non.
Comment pouvez-vous partager l'espérance du Christ avec des gens s'il n'y a personne autour de vous?
Comment pouvez-vous être une lumière s'il n'y a pas de ténèbres?
Donc, ce n'est pas la solution.
Alors, devons-nous essayer de nous fondre dans le monde?
Devons-nous accepter ce que le monde accepte et essayer d'intégrer les choses du monde dans nos églises?
Non, ce n'est pas non plus la réponse.
Car Romains 12 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. »
L'isolement n'est donc pas la solution. L'intégration n'est pas non plus la solution.
Alors, quelle est la solution? Je pense que Jésus nous donne la réponse dans Matthieu 10-16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. »
Jésus envoie ses disciples. Il les a choisis du monde, il les a tirés du monde, mais il les renvoie dans ce même monde.
Il reste encore du travail à accomplir.
Les personnes perdues ont encore besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile.
Mais Jésus les avertit. Vous allez dans un monde hostile. Il y a des loups dehors. C'est dangereux pour les brebis. C'est pourquoi vous devez être sage, vous devez être perspicace, vous devez être malin comme un serpent.
Là d'où je viens, au Texas, il y a beaucoup de serpents. Et selon mon expérience avec les serpents, ils ne font pas beaucoup de bruit pour te prévenir de leur présence. Ils restent discrets et se glissent silencieusement. Parfois, tu peux passer juste à côté d'un serpent, sans même savoir qu'il est là. Ils sont malins. Ils choisissent leur moment avec sagesse.
Ils sont conscients de leur environnement.
De la même manière, tu dois être conscient de ton entourage. Fais attention aux pièges. Ce monde est un endroit hostile. Il y a des personnes à qui tu peux faire confiance, et d'autres à qui tu ne peux pas faire confiance. Certaines personnes te veulent du bien, d'autres non. Tu dois choisir tes moments avec sagesse. L'essentiel de ce que Jésus dit ici, dans Matthieu 10 et dans Jean 15, c'est « Ne sois pas naïf ». Le monde a rejeté Jésus, donc ne sois pas surpris s'il te rejette toi aussi.
En même temps, soyez simples comme les colombes, dit Jésus.
Une colombe est inoffensive, une colombe est douce, elle n'est pas cynique. Comme le dit un auteur, vivre pleinement en chrétien exige que nous trouvions le juste équilibre entre la colombe et le serpent. Nous devons nous efforcer d'être doux, sans être des naïfs. Et nous devons être prêts au sacrifice, sans nous laisser exploiter. Nous sommes conscients des ruses de l'ennemi, mais nous choisissons la voie noble. Jésus continue. 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Jésus répète ces paroles aux disciples dans Jean 13, lorsqu'il leur a lavé les pieds. Le contexte alors était que, puisqu'il les servait avec amour, eux aussi devaient servir les autres avec amour. Tout comme leur maître et mentor Jésus les avait servis. Désormais, l'application concerne la persécution. S'ils ont persécuté leur maître Jésus, ils persécuteront aussi ses disciples. En même temps, ceux qui ont écouté Jésus les écouteront eux aussi.
Lorsque vous recherchez sur Google les promesses de Dieu, en général, vous trouverez des promesses telles que « Dieu ne t'abandonnera jamais », « Dieu prendra soin de toi », « Dieu entend tes prières », « Dieu œuvre en toutes choses pour ton bien », « Dieu te fortifiera », « Dieu te dénira ». Toutes ces promesses sont vraies et bonnes. Loué soit Dieu pour ses promesses. Alléluia. Tu dois t'attacher fermement à ses promesses. Mais tu sais ce qui manque souvent à ces listes, des promesses comme celle du verset 20. Ils vous persécuteront. Ou encore, 2 Timothée 3:12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Même si ces promesses sont moins souvent évoquées, elles sont tout aussi vraies. Selon le projet Esther, dans notre monde aujourd'hui, 322 chrétiens sont tués pour leur foi chaque mois. 214 églises et propriétés chrétiennes sont détruites chaque mois. 772 actes de violence, passage à tabac, enlèvement, viol, arrestation, etc. sont commis contre des chrétiens chaque mois. Ce sont nos frères et sœurs en Christ qui prennent leur croix et suivent Christ, n'ayant pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Pouvons-nous prendre un moment pour prier pour nos frères et sœurs qui mènent en ce moment le bon combat de la foi?
Dieu, nous prions pour nos frères et sœurs qui font face à la persécution aujourd'hui. Seigneur, dans certains endroits, nous ne pouvons même pas imaginer ce qu'ils traversent. Bénis-les, Père, donne-leur de la force aujourd'hui. Prends soin d'eux en cet instant précis, alors qu'ils se rassemblent pour t'adorer aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons entendre ces statistiques, et cela nous paraît si lointain. Alors que nous sommes assis ici en Europe avec nos libertés religieuses, notre situation est différente, et nous devons louer Dieu pour la paix et les libertés qu'il nous a accordées. C'est une bénédiction. Tu n'as pas besoin de chercher artificiellement la persécution, parce que Jésus a promis qu'elle viendrait. Alors, que pouvons-nous dire à nos frères et sœurs qui subissent une intense persécution dans d'autres régions du monde? J'espère qu'un jour, lorsque nous les rencontrerons au ciel, nous pourrons les regarder dans les yeux et dire « J'ai fait ma part. Je n'ai peut-être pas été tué pour ce en quoi je crois, mais je me suis tenu à vos côtés dans le combat, épaule contre épaule. N'aie pas honte de Jésus-Christ à la maison. N'aie pas honte de Jésus-Christ au travail. N'aie pas honte de Jésus-Christ à l'école, dans ta communauté.
Quand la persécution vient, endure pour l'amour de l'Évangile.
Lorsque les gens colportent des commérages à ton sujet, tiens bon. Quand les gens se moquent de toi ou te ridiculisent à cause de ce en quoi tu crois, tiens bon. Quand ton patron menace de te licencier si tu ne fais pas quelque chose d'illégal pour lui, tiens bon. Lorsque des gens ne t'incluent pas à cause de ta foi, tiens bon, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui en Pologne, en 2025,
Il semble assez rare que quelqu'un soit tué pour croire en Jésus. Cela pourrait arriver. Même si nous ne sommes peut-être pas tous appelés à mourir pour Christ, nous sommes tous appelés à vivre pour lui. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. S'ils ont persécuté notre Sauveur, ils vous persécuteront aussi. Mais le Seigneur est avec toi. Il te donnera la force de tenir ferme.
21. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé.
22. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché.
23. Celui qui me hait, est aussi mon Père.
24. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues, et ils y haïssent, et moi, et mon Père.
25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplît la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause.
Pourquoi les gens vous persécutent-ils à cause de votre foi en Jésus?
Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne croient pas en lui. Et Jésus dit, vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu, mais haïssez Jésus. Parce que Jésus est venu accomplir la volonté de Dieu, le Père.
Celui qui est Jésus, est également Dieu le Père. Tout est lié.
Au verset 22 et 24, Jésus dit, si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas été coupables de péché. Et, si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que personne d'autre n'a faites, ils n'auraient pas été coupables de péché. Bien sûr, la Bible dit que nous sommes tous coupables de péché et vivons dans la rébellion contre Dieu. Mais Jésus parle ici spécifiquement du péché de le rejeter lui.
En d'autres termes, si Jésus n'était jamais venu sur terre, alors personne ne serait coupable de l'avoir rejeté. Mais puisqu'il est venu, puisqu'ils ont entendu ses paroles, puisqu'ils ont vu ses œuvres que nul autre n'a faites, et puisqu'ils l'ont quand même rejeté, ils sont coupables de ce péché. On ne peut pas être neutre à propos de Jésus. Ou bien tu l'aimes, ou bien tu le hais. Tu l'acceptes, ou tu le rejettes. Tu es soit avec lui, soit contre lui. Tu le reconnais devant les autres. Ou tu le renies devant les autres. Tu vis pour lui, ou tu vis pour les choses de ce monde.
Vous ne pouvez pas être neutre à propos de Jésus. C'est comme être à la gare, sur le quai, alors que le train s'apprête à partir. Quelqu'un vous demande, allez-vous monter dans ce train? Et votre réponse est, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Je suis neutre. Mais cette réponse ne marche pas. Car dans un instant, ce train va partir, avec ou sans vous. En ne choisissant pas, vous avez en réalité choisi. Il en est de même avec Jésus. Vous ne pouvez pas être neutre à son sujet. Si vous êtes ici ce matin et que vous n'avez pas encore suivi Jésus-Christ, je vous exhorte à ne pas attendre. La vie est courte. Vous ne savez jamais quand ce train va partir. Aujourd'hui est le jour du salut. Mettez votre espérance et votre foi dans le vrai cep, Jésus-Christ. Attachez-vous à lui. N'attendez pas.
26. Mais quand le Consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui provient du Père, il rendra témoignage de moi.
27.
Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi, dès le commencement.
La semaine dernière, au chapitre 14, nous avons examiné la promesse de Jésus concernant la venue du Saint-Esprit à ses disciples. Jésus était sur le point de les quitter, mais il a dit, « Ne vous inquiétez pas, je vous enverrai un Consolateur. »
Au moment du salut, Dieu nous envoie le Saint-Esprit pour habiter en nous.
La semaine dernière, nous avons vu comment le Saint-Esprit vous apporte de l'aide, de l'espérance, de la direction et de la paix.
Et ici, nous voyons que le Saint-Esprit nous aide à témoigner de Jésus auprès du monde.
vous avez la force et la puissance de rendre témoignage à Jésus-Christ, car le Saint-Esprit, qui habite en vous, vous donne la puissance de témoigner et de rendre témoignage à Jésus-Christ. Il est important de se rappeler le contexte. Le contexte est celui de la persécution. Lorsque nous sommes persécutés, la tentation sera de rester silencieux ou de ne pas être si audacieux. Mais Jésus dit que lorsque la persécution viendra, le Saint-Esprit vous aidera à être audacieux. Le Saint-Esprit vous aidera à dire la vérité. Le Saint-Esprit vous donnera les mots à dire lorsque la persécution surviendra.
Jésus forme ses disciples. Il nous forme. Il nous prépare. Pourquoi? Pourquoi mentionne-t-il tout cela? 16.1. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne bronchiez pas. Jésus les avertit, afin qu'ils ne trébuchent pas. Que signifie trébucher ou tomber? Dans les évangiles, cette expression semble avoir deux sens. Le même jour, nous voyons la même expression dans Marc 14, 27. « Vous allez tous succomber, leur dit Jésus, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. » Quelques versets plus loin, Pierre dit, « Non, même s'ils succombent tous, moi, je ne succomberai pas. » Mais Pierre lui-même allait succomber et renier Jésus trois fois, ce soir-là même. Que signifie donc « trébucher » ou « tomber » dans Marc 14 et dans Jean 16, cela semble être une crise de foi au milieu de la persécution.
Lorsque Jésus a été arrêté, les brebis se sont effectivement dispersées, comme Jésus, le bon berger, l'avait prédit. Mais ce n'était que temporaire. Lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, trois jours plus tard, leur foi a été restaurée et Dieu les a utilisés pour accomplir de grandes choses.
La racine de leur foi était si profonde qu'elle pouvait soutenir la crise de foi.
L'autre type de chute, nous la voyons dans Matthieu 13, 20 à 21, lorsque Jésus enseigne la parabole des quatre terrains, 20. La semence tombée dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il ne dure qu'un temps. Dès que survient une détresse ou une persécution à cause de la parole, il succombe aussitôt. L'autre forme de chute, celle de la parabole des terrains, est l'opposée. Il n'y avait pas de racines. La semence est tombée sur un sol pierreux. L'expérience spirituelle fut temporaire, mais lorsque la persécution est venue, ils sont tombés et ne sont jamais revenus.
Je pense qu'il est important de comprendre cette différence. Parce que certaines personnes vont lire le verset 1 et commencer immédiatement à avoir des pensées négatives à leur sujet. Ils vont penser « Je n'y arriverai pas, je vais décevoir Dieu, je serai l'une de ces personnes qui abandonnent lorsque la persécution arrive. » Mais est-ce vraiment ce que Jésus dit dans le verset 1? Jésus a dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ne bronchiez pas. » Le contexte n'est pas la condamnation. Le contexte est la préparation. Jésus avertissait ses disciples afin qu'ils soient prêts lorsque la persécution viendrait à eux. La semaine dernière, nous avons lu dans Jean 14 que Jésus promettait à ses disciples que le Saint-Esprit demeurerait en eux pour toujours. Ce sont ces mêmes disciples qui ont trébuché cette nuit-là. Les mêmes disciples qui se sont dispersés lorsque le berger a été frappé. Dieu veut que tu sois en sécurité dans ta relation avec lui, pas dans l'insécurité. Il veut que tu sois confiant dans ta relation avec lui, pas dans la peur. Le verset 1 concerne la préparation, non la condamnation. Regardez les derniers versets. Jésus devient encore plus précis. 2. Ils vous excluront des synagogues. Bien plus, l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera rendre un culte à Dieu. 3. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. 4. Mais je vous ai dit ces choses afin que lorsque leur heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites.
Jésus a dit que les disciples seraient expulsés des synagogues, là où les Juifs se rassemblaient, adoraient et apprenaient. Les disciples essaieraient d'enseigner à Israël qui était Jésus. Mais ils seraient persécutés, voire tués, pour leur foi. Et ceux qui les tueraient penseraient défendre l'honneur de Dieu. Mais en réalité, ils persécutaient le peuple de Dieu sans jamais l'avoir connu. Jésus dit, « Je vous dis ces choses à l'avance, afin que, lorsque la persécution viendra, vous vous rappeliez ce que je vous ai dit. Regardez, si vous êtes comme moi, vous voulez être accepté.
Je veux que les gens m'aiment. Je ne veux pas que les gens me méprisent. Encore moins qu'ils me détestent. »
Mais la vérité, c'est qu'il y aura des personnes qui ne t'aimeront pas à cause de ce que tu crois. Il y aura des gens qui seront contre toi à cause de tes convictions. Quiconque veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Ne sois pas naïf, sois préparé, mais sois aussi encouragé, car nous avons un Sauveur qui sait ce que tu traverses. Nous avons un Sauveur qui sait ce que cela signifie d'être rejeté et méprisé. Mais nous avons aussi un Sauveur qui a triomphé. Ne rends pas le mal pour le mal. Aime tes ennemis. Prie pour ceux qui te persécutent, car le royaume des cieux est à toi.